De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais, je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonjour, c'est Gulliver, le magazine des livres qui vous parle du monde tel qu'il est. Littérature, essais, récits de voyage, nous tâcherons d'attirer votre attention sur les femmes et les hommes de la planète. Vous connaissez tous Gulliver, ce personnage de Jonathan Swift, dont les voyages imaginaires sont autant de critiques de la société de son temps. C'est un merveilleux détour par la littérature pour faire entendre la rumeur du monde. Autant dire que nous nous intéresserons plus à la fiction qu'à l'autofiction, au récit qu'à l'introspection, et ainsi tenterons de vous faire partager cet usage du monde cher à Nicolas Bouvier. Aujourd'hui, c'est à François Garde que nous allons nous intéresser. Il sera notre invité principal pour son dernier roman, Trois couronnes, paru aux éditions Gallimard. Puis nous évoquerons la Kanaky avec une exposition au musée du Quai Branly et surtout une publication. Nous vous parlerons d'un film afghan, Wajma, la fiancée afghane. Nous évoquerons le contenu d'un magazine, Globetrotter, dont le numéro récent est consacré à l'Asie centrale. Et puis nous terminerons avec le photographe Raymond Depardon avant la revue de presse.
Quiero toite, ale pure, ya nada trato bien.
Voilà, c'est donc avec des chants maoris qui vont nous servir de fond musical à cette interview avec François Garde, que nous avons rencontré pour donc son deuxième livre, puisqu'il obtint le prix Goncourt du premier roman avec ce qu'il advint du Sauvage Blanc. François Garde est ce qu'il convient d'appeler un haut fonctionnaire, que l'envie d'écrire date de la jeunesse, mais c'est à la cinquantaine qu'il s'est décidé à publier. Nous avons donc commencé par évoquer avec lui l'influence de sa carrière sur son travail d'écrivain.
J'ai dans ma carrière professionnelle eu l'occasion d'habiter successivement et dans le désordre en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, donc dans les trois océans. Et quand j'étais en Martinique, je suis allé en Guadeloupe et en Guyane. Quand j'étais à La Réunion, je suis allé à Mayotte. Quand j'étais en Calédonie, je suis allé en Polynésie. Enfin bref, je connais tous les points de l'outre-mer français et j'y ai habité. Ma deuxième fille est née à Nouméa. Enfin bref, donc je suis imprégné de ces paysages, de ces qui ne sont pas les mêmes, hein, de ces cultures qui ne sont pas les mêmes d'un océan à l'autre, mais il y a quand même un certain nombre de points communs dans cette France des tropiques. Et lorsque j'ai écrit pour Trois Couronnes, je ne me suis pas inspiré directement de scènes ou de paysages vécus, mais créant une île tropicale imaginaire de culture française, mes souvenirs ont nécessairement percolé et servi de matériaux pour créer cette île, son histoire, son ethnologie, sa géographie, sa cuisine, etc. Mais pas de manière consciente, c'est-à-dire c'est pas un roman à clé, j'essaye pas de suggérer des choses, si c'est un roman à clé, il y a beaucoup de clés, j'ai perdu le trousseau, quoi, c'est effectivement, ou pour répondre plus simplement, si je n'avais pas passé une assez longue partie de ma carrière outre-mer, j'aurais certainement pas pu écrire un roman comme celui-là, si j'avais jamais quitté l'Hexagone.
Alors quand même, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y ait question de trouble, avec un T majuscule, et comme j'ai fait un rapide calcul et que j'ai vu que lorsque vous étiez en Nouvelle-Calédonie, c'était 2-3 ans peut-être après ce qui s'y était passé d'événements, est-ce que là aussi, c'est pas il n'y a pas une imprégnation sans être directement inspiré de ce qui s'était passé, bien sûr.
L'île en question, lorsque le roman y va, lorsque le narrateur y va, est convalescente d'une guerre civile, mais d'une guerre civile très violente, puisque on a tiré à l'arme lourde d'un quartier sur un autre, la ville était coupée en deux avec des barbelés et des sacs de sable, et seule l'arrivée des casques bleus a mis un terme à la guerre civile. Donc c'est une situation que aucun point de l'outre-mer français n'a rencontré. Donc, cette période est appelée les troubles par tout le monde, ce qui est un terme euphémistique, évidemment. Alors, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu les événements. Enfin, on parlait aussi des événements d'Algérie. On a mis 30 ans à prononcer le mot de guerre pour l'Algérie. Donc, oui, c'est le même processus qui fait qu'on ne peut pas appeler les choses par leur nom et qui fait qu'on dit les troubles. J'ai délibérément évité les événements parce que les événements fléchaient trop sur précisément soit la Nouvelle-Calédonie, soit l'Algérie. Le mot trouble était, si je puis dire, libre. Je l'ai utilisé, mais évidemment, c'est le même processus de dénomination des choses que l'on ne peut pas ou que l'on ne veut pas dénommer.
Alors, venons-en au titre, pour Trois Couronnes. Au fond, on peut se dire que ce titre-là, c'est la clé de la situation de départ, puisque c'est le salaire, pourrait-on dire, bien qu'après, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus que ça, mais au départ, c'est le salaire d'une prestation un peu spéciale que le narrateur va découvrir au fil du livre. Comment cette idée vous est venue ?
Alors, je ne sais pas si... Tant pis, on va déflorer au moins le début du livre, oui, sinon oui. Je ne peux pas répondre à la question. Donc le livre s'ouvre sur un texte sur trois pages. Donc à la quatrième page, il y a un narrateur qui donc découvre ce texte en même temps que vous, lecteur. Et ce texte raconte comment dans un port non identifié, non nommé, à une période non nommée, un jeune matelot de 23 ans a été recruté pour une prestation bien particulière, puisqu'on l'amène dans une chambre pour faire l'amour à une femme qui garde une voilette sur le visage, donc il ne la voit pas. Et, Et bien sûr, on le choisit parce qu'il est de passage, il va s'en aller. Et en échange de cette prestation de, comment dirais-je, d'étalon ou de procréation médicalement assistée avant l'heure, eh bien, il reçoit trois couronnes. Enfin, il reçoit ou il dit recevoir trois couronnes d'or. Donc, cette scène est effectivement une scène de départ très, très, comment dirais-je, je vais dire très forte, mais ça ne serait pas très modeste de dire ça, mais enfin, quand même relativement surprenante. Mmh. Et c'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé le roman. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Et il a fallu 300 pages pour élucider cette énigme qui est posée dans le jeu. Mais du coup, je crois que j'ai oublié la question.
Oui, en fait, c'était comment ce texte, dont 2-3 pages, donc les trois couronnes, comment c'est venu? C'est
un beau... Ah ben ça, je sais pas. Un jour, j'ai pris un papier et un crayon et j'ai écrit ces trois pages. Ensuite, il m'a fallu un certain temps, je ne sais plus, quelques semaines pour dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ce truc? Enfin, c'est pas une nouvelle, c'est trop lacunaire pour faire une nouvelle. C'est bon, bref. Et donc, mais j'avais envie de commencer un roman comme ça. Je n'avais aucun personnage, aucune situation, etc. Donc après, je peux vous faire la petite démonstration, c'est assez facile. Si c'est le narrateur qui écrit lui-même son histoire, ben après, il ne va pas écrire l'histoire, ou alors il l'écrirait en entier. Donc ce n'est pas le narrateur qui écrit. Donc il faut que le narrateur trouve ce texte. S'il trouve ce texte du vivant de l'auteur du texte, ben, il va lui poser la question. Papa, tonton, monsieur le directeur, quel est le sens de ce texte? Donc il fallait que l'auteur du texte soit mort quand le narrateur le trouve. Bon. Et dans quelles circonstances on peut trouver un texte intime de quelqu'un qui vient de mourir? Alors évidemment, ça peut être la famille. Mais si c'était la famille, elle aurait eu déjà trop d'indices. Donc il fallait que ce soit quelqu'un de complètement étranger à la famille qui trouve le texte à la mort de son auteur. Et donc, du coup, j'invente le métier qui va bien, qui permet à un inconnu, mandaté pour cela par la famille, d'aller ranger les papiers du défunt. Et donc, puisque c'est le narrateur, l'auteur du texte est évidemment le matelot de 23 ans, 60 ou 70 ans plus tard. Donc, puisqu'il y a une famille qui lui demande, il faut qu'il ait une veuve. Voilà, et puis il faut qu'il n'ait pas d'enfant. On verra pourquoi. Enfin, si vous avez dit, vous comprendrez pourquoi il faut qu'il n'ait pas d'enfant. Et puis donc, du coup, il fait la recherche et la première partie du livre, c'est le narrateur explore toutes les potentialités du texte. Il s'interroge sur la biographie du milliardaire qui a laissé ce papier. Il essaie de trouver dans la géographie, dans les quelques indices, les maigres indices du texte, où a lieu quel est ce port. Il finit par le trouver. Donc avec la biographie, il trouve l'année, puisque voilà. Il fait le calcul, enfin bref, il accumule, et puis qu'est-ce que ça veut dire cette scène? Donc il rencontre un journaliste qui a connu le milliardaire et qui lui en fait un portrait, et puis il rencontre un médecin qui lui raconte comment de telles rencontres pouvaient être organisées dans les 50, totalement imaginaire, hein. C'est pas, j'ai pas recueilli de confession de gynécologue très très âgé. Voilà, et donc il a à peu près tous les éléments du puzzle. Donc après, du coup, il va dans l'île et là il continue son enquête de la même manière, assez minutieuse, mais en même temps c'est pas une enquête difficile au sens où il n'y a pas d'innombrables fausses pistes comme dans un roman noir. Il faut juste se poser, après une bonne analyse des données de l'équation, se poser les bonnes questions, et comme il se pose la bonne question, il trouve la bonne réponse. Mais cette bonne réponse l'amène à élargir en permanence le champ de son enquête et de sa réflexion. Au début, c'est un bon petit soldat qui fait le travail pour lequel il est payé. Puis à la fin, il va prendre, on va dire, son autonomie par rapport à sa commanditaire.
Ceci dit, l'un des ressorts quand même du livre, et qui en fait tout l'intérêt, c'est que l'énigme rebondit sans cesse. C'est-à-dire que les trois pages de départ sont très énigmatiques. L'enquêteur en question, c'est un peu le profil d'un roman policier très classique, fait un certain nombre de recherches, et puis à chaque fois, il y a un climat, ou en tout cas quelque chose de plus, qui fait qu'on est intrigué, et que ça rebondit, et donc le lecteur est porté comme ça de loin en loin, de presque d'énigme en énigme, parce que l'énigme ne s'explique pas, et le redevient plus complexe, et ainsi de suite.
Oui, bien sûr, mais ça c'est le ressort de tout roman. Il ne faut quand même pas que le lecteur s'ennuie, ça serait terrible. Donc le narrateur résout son énigme, et chaque fois qu'évidemment il franchit une porte, il se retrouve devant une énigme supplémentaire, et qui vont en s'élargissant dans le temps et dans l'espace, puisque il est amené à s'interroger non seulement sur les acteurs de la scène, le matelot, la femme masquée, le médecin et l'homme qu'il paye, qu'il suppose être le mari stérile, et sur chacun d'entre eux, il faut qu'il comprenne ses motivations, donc son histoire, et donc l'histoire éventuellement du père de l'homme stérile. Puisqu'après tout, le matelot a été utilisé comme étalon, bien évidemment, il va tout de suite se poser la question de savoir si un enfant est né de cette nuit. Et oui, un enfant est né, et donc à nouveau, l'enquête repart aussi dans cette direction-là, qui est devenu l'enfant, et etc. Donc effectivement, c'est une série de... L'enquête du narrateur l'amène à élargir en permanence dans le temps, dans l'espace et dans les problématiques ce que veut dire cette scène. C'est pas simplement, comme il pouvait le croire au départ, parce qu'au départ il dit « mais non, c'est pas une scène de débauche ». C'est pas le mari est pas un pervers qui regarde un homme du peuple faire l'amour à sa femme. C'est les lumières éteintes, c'est sous les draps, donc c'est voilà. Donc c'est bien juste pour pallier à la stérilité.
C'est médical.
C'est voilà, c'est quasi médical. Mais à l'époque où ça a eu lieu, c'était effectivement ça. Mais vu d'aujourd'hui, ça a pris de tout autre dimension. Et donc, il est amené peu à peu à se poser des questions qui le perturbent profondément et qui l'amènent à pousser son enquête ou sa réflexion plutôt bien au-delà de ce qui lui était demandé.
Alors, cet enquêteur, vous l'avez appelé curateur aux documents privés. Et d'ailleurs, lui-même donne l'explication, c'est lui qui nomme son activité comme ça.
Alors lui, c'est un petit métier prometteur. J'engage les gens qui en auraient le goût de se lancer là-dedans. Je pense qu'il y a un métier de service sous-exploité. Et donc, en cette période de lutte contre le chômage, j'ai apporté mon écho en suggérant la création d'un métier nouveau. Alors, il n'y en aura pas des milliers, mais enfin, les riches familles...
C'est très proche d'un généalogiste, quand même.
Non, parce que l'idée, c'est que quand quelqu'un meurt, c'est très douloureux d'aller trier les papiers. Donc, tous ceux qui ont vécu cela le savent bien. Donc là, on confie à quelqu'un qu'on paye pour ça, donc anonyme, qui présente bien, avec une cravate noire, etc. Il va trier les papiers au lieu de trouver le bordel habituel. Voilà, il s'occupe de ça pendant 15 jours et vous avez des classeurs bien rangés, factures, lettres, trucs, machin. Et c'est quand même, en termes de travail de deuil, ça peut être... Enfin, voilà, je crois que c'est rien. Il y a une vraie nécessité de créer ce métier. Donc, comme la réalité ne l'a pas créé, je l'ai créé à sa place.
Alors, lui-même, ce personnage, on verra les autres après, mais celui-là est intéressant. Il est libanais d'origine, il vit aux États-Unis, donc le roman démarre à Manhattan. Il a des ascendances françaises, un petit peu.
Le milliardaire.
Oui.
Le
Libanais, non.
Le Libanais, il a des cultures françaises, comme tous les Libanais, mais non, il est Libanais, oui.
Et donc, tout au long du roman, il distille des points de vue et qui fait qu'on c'est pas simplement un enquêteur, quoi. C'est un peu un prisme à travers lequel on suit toute l'histoire.
Oui, le narrateur est un personnage finalement assez effacé. Je veux dire, on ne sait pas grand-chose de lui. Et puis on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet du livre, c'est pas les émois du narrateur, etc. Et pourtant... Il fallait que le narrateur soit lui-même, bouleversé par cette histoire. Et pas simplement avec une espèce de curiosité détachée. Voilà. Et donc, il était important qu'il prenne la parole de temps en temps. Donc, j'ai mis ces paragraphes-là, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont entre parenthèses pour que le lecteur les situe bien, où il fait un petit commentaire personnel, où peu à peu, son histoire à lui se révèle. Et simplement, son histoire à lui, son histoire personnelle, l'exil, la mort de son père, le Liban, fait d'une certaine manière écho à l'histoire principale qu'il est en train de découvrir, et c'est bien parce que ça lui importe, non seulement ça lui importe, mais ça le déstabilise, ça le brûle comme de l'acide, cette histoire, et les éléments biographiques que je lui donne permettent de donner plus de, à la fois plus de relief, parce que ça fait une espèce d'écho, une espèce de stéréo, si je puis dire, et en même temps plus de profondeur, et puis aussi, ça explique pourquoi il pousse aussi loin son enquête, ce que n'aurait pas fait l'enquêteur si ça avait été juste un Français, ou un Belge, ou un Suisse. Voilà, il fallait qu'il soit Libanais, puisque l'équation de la guerre civile qui est décrite, enfin, de l'après-guerre civile qui est décrite dans le livre, en tant que Libanais, évidemment, le touche de manière très différente de la simple compassion un peu lointaine qu'on peut avoir, nous qui vivons dans un pays apparemment bien tranquille.
Alors donc, le matelot en question va s'avérer être un personnage clé, le personnage clé du roman, bien sûr, mais on va découvrir peu à peu, avec, encore une fois, pas mal de complexité, on va découvrir qu'il, en fait, il n'a pas été rémunéré, mais qu'il a volé ces fameuses trois couronnes.
Oui, oui, je ne voulais pas le dire, mais puisque vous l'avez dit... Puisque vous l'avez dit, c'est l'une des surprises du livre. Effectivement, on s'aperçoit que sur ce point-là, le récit initial qui explique que le mari stérile lui a donné trois pièces d'or pour le payer de sa prestation, et c'est un peu surprenant parce qu'on explique bien que cette pièce d'or représente une valeur pour les collectionneurs inestimable, donc la rémunération serait très très importante. Et en outre, pour le mari stérile, il a lui-même reçu ces pièces d'or de son père. Et elle représente un symbole très fort de la transmission familiale. Donc, c'est pas très cohérent avec le fait qu'on les donne à ce matelot qu'on veut oublier. Et puis, effectivement, on finit par comprendre qu'il a été probablement payé de quelques billets et que.
Mais ça, c'est ça qu'il faut pas dire. Il faut pas dire comment il va.
Voilà. Et donc, et quand le bateau est parti, il avait les pièces d'or avec lui. Voilà. Bon. Alors qu'il est... Voilà. Mais donc, effectivement, c'est une des... Donc, mais le cours des pièces... Alors, je vais peut-être répondre autrement. Le cours des pièces d'or, qui au début sont uniquement... on les voit pendant les 5 secondes où le mari stérile paye le matelot. Et puis, là aussi, enfin, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le livre est amené à les recroiser à différentes séquences. Et on vous saurez tout des pièces d'or depuis leur fonte dans un duché imaginaire à l'est de la Prusse au XVIIe siècle jusque au moment le plus contemporain, puisque les pièces d'or, il y a une nouvelle péripétie, mais ça, il ne faut vraiment pas la raconter, sur les pièces d'or à la fin. Et je précise pour ceux qui s'en étonneraient que je ne connais rien à la numismatique, donc il y a de longs développements, enfin de longs...
Si,
il y a des développements sur la numismatique. Vous apprendrez des choses sur l'histoire de ces pièces d'or. Alors, ces pièces d'or n'existent pas plus que mon île ni que mon métier. Et tout ce que je raconte sur la théorie générale des pièces d'or, etc., c'est totalement inventé, pour ne pas dire totalement bidon. Mais c'est beaucoup plus drôle. C'est rédigé sur un ton érudit. Explique qu'au XIVe siècle, etc., et dans le pacte romanesque, vous n'osez jamais remettre en cause ce que l'auteur vous assène du haut de... prestige de la collection blanche de Gallimard. Et donc, ne croyez pas un seul mot de tout cela. Le duché en question n'existe pas. Le prince n'est jamais venu se jeter aux pieds de Louis XIV. Il n'est pas cité par Rousseau ni par Tocqueville, je crois. Enfin bref, tout ça est entièrement bidon. Mais qu'est-ce que c'est drôle à écrire ?
Thank you. Précisément, puisqu'on parle de côté savant, un des personnages s'appelle Colbert. Est-ce qu'il y a une allusion on ne choisit pas un prénom comme ça par hasard?
Alors non. Enfin, Colbert, oui, bien sûr, vous allez me dire, un ancien élève de l'ENA qui salue le doctrinaire de l'intervention économique de l'État. Enfin bon, ben non. Enfin, ou alors c'est à l'insu de mon plein gré. Quoi. Non, je voulais un nom qui fasse extrêmement français, qui soit pas marqué provincialement, enfin d'une origine d'une province en particulier. Et puis ça sonnait bien. Voilà, c'est tout. Donc il y a pas d'explication. Jean, vous pourriez m'interroger sur tous les autres toponymes que celui-là, puisque j'ai beaucoup de mal avec les noms propres. Quand on dans le roman précédent, c'était pareil. Je trouve que souvent dans les romans, les noms des personnages ne font pas vrai. Et c'est super dur. Alors certains prennent l'ailleurs téléphonique, mais dans l'ailleurs téléphonique, il y a des noms qui ne font pas vrai. Enfin, je veux dire, il faut que ça fasse vrai, quoi. Il y en a un qui est très fort pour ça, c'est John le Carré, avec ses noms absolument imprononçables de la bonne bourgeoisie anglaise ou la petite aristocratie. Voilà. Mais bon, mais moi, c'est les Français, donc je peux pas piquer des noms à John le Carré. Et donc, je passe du temps à chercher. Et là, c'est très simple pour tous les personnages, sauf le narrateur et Thomas Colbert. J'ai pris une carte des îles Kerguelen et j'ai pris des noms de pointes, de capes, d'îles, de baies, et voilà. Donc, Bourtapage, c'est donc là, c'est pas le nom d'un personnage, c'est le nom de l'île imaginaire. Bourtapage, c'est une création, effectivement. Apparemment réussi, puisque ça fonctionne très bien, enfin tout le monde croit. Certains journalistes très connus sur la place de Paris, mais non, je tairai les noms parce que je ne suis pas du genre à balancer, me disaient en début d'émission « Rappelez-moi où c'est Bourtapage ?» Ça n'existe pas, mon cher. Bon. Alors, comment j'ai créé Bourtapage? C'est très simple. Tapage tout court, c'est le nom d'un hameau de 5 maisons qui est dans le sud de la Réunion, du côté de Saint-Philippe, pour ceux qui connaissent. Et tapage, c'était bien parce que c'est un joli nom, un joli mot français. Mais tapage, comme nom de ville importante, ça fonctionnait pas. Et j'ai tourné avec tapage, port-tapage, ça fonctionnait pas. Bon, et puis un jour, je suis passé à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, ça aurait pu être Bourg-en-Bresse, hein, ou Bourg-Saint-Andéol. Enfin, c'était Bourg-Saint-Maurice, et donc Bourg-tapage. Et alors là, quand j'ai trouvé Bourg-tapage, je me suis dit, voilà, quoi, c'est là que ça doit se passer. Et ça fait vrai, ça fait vrai.
Alors, bon, on ne peut pas trop entrer dans l'histoire proprement dite, parce que sinon, on va vous gâcher le plaisir, qui est grand. Mais il y a deux personnages sur lesquels il serait intéressant de revenir. C'est celui qui est né de cette procréation médicalement assistée, qui est donc Benjamin Tobias, qui va devenir un dangereux révolutionnaire.
Pourquoi dangereux?
Enfin, dangereux, puisqu'il est dans les... C'est lui qui occasionne, qui crée des troubles, quand même, qui est impliqué.
Les troubles ont commencé après sa mort. Non, je réagis à ça. Dangereux révolutionnaire, parce que, à moins que pour vous, ce soit un pléonasme, mais c'est un révolutionnaire au sens où il conteste l'organisation sociale au nom des droits d'une communauté qui existe sur cette île. Mais j'ai fait très attention dans tout le livre, alors peut-être je n'y suis pas arrivé, mais... À le laisser sur une ligne de crête entre le bien et le mal. Pour dire les choses plus clairement, on peut penser, c'est l'équivalent de Mandela et il défend les droits d'une minorité injustement opprimée, ou bien c'est Milosevic et il instrumentalise la cause d'une communauté pour créer une catastrophe. Donc, est-ce que c'est Mandela? Est-ce que c'est une figure lumineuse et positive? Est-ce que si Milosevic, un abominable salaud cynique, le livre reste, enfin, ma tentative, le livre reste sur la ligne de crête, et je vous laisse libre de considérer que ce discours est un discours, que son discours est un discours de haine, ou que c'est un discours de revendication de justice. Je n'ai pas voulu trancher.
C'est vrai que...
Alors après, chacun, en fonction de son histoire personnelle, de ses sensibilités politiques, va le tirer d'un côté ou de l'autre. Mais si vous regardez ce qui est donné de manière factuelle, y compris il y a une scène où il regarde le narrateur, puisque ce révolutionnaire, je ne sais pas s'il est dangereux, mais en tout cas, il a été assassiné. Donc on ne peut plus aller le voir, mais il regarde une cassette où on voit une scène de meeting, une scène très, très, très émotive, enfin très... très spectaculaire, c'est un peu comme un évangéliste américain, quoi. Il fait un grand... Mais voilà, c'est un discours où il revendique les droits de sa communauté, mais lorsqu'il dit... Et il y a d'autres voix de gens qui ne sont pas de cette communauté qui disent « Mais c'était pas ça, c'était pas si... » voilà, la situation n'était pas aussi binaire et caricaturale. Et qui disent « Mais ce type-là a provoqué les troubles. » Alors, donc moi, je ne sais pas si c'est un gentil ou si c'est un méchant. Ce qui est clair, c'est qu'il a été un révolutionnaire au sens où il a contesté l'équilibre sociologique, politique de son île. Il a été assassiné. Le livre suggère, là encore, peut-être par ses ennemis, peut-être par le numéro 2 ou 3 de son parti, voire même des gens qui imaginent des hypothèses plus perverses encore. Et les troubles ont commencé quelques mois, la guerre civile en clair a commencé quelques mois après son assassinat. Donc ça n'est pas non plus, pour ceux qui m'ont dit, compte tenu de mon parcours, ont essayé d'avoir une grille de lecture de Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas Jean-Marie Tjibaou, parce que Jean-Marie Tjibaou a été assassiné après l'accord de paix, oui. Et pas avant les événements.
Comme l'indique le nom du mouvement, la défense des insulaires, Benjamin Tobias était insulaire. Nul ne peut contester son talent à convaincre les foules, populaire, sans scrupules, diablement efficace. Il incarnait le front. D'autres que lui s'occupaient des alliances, des négociations et des finances.
Ça c'est dans la bouche d'un... C'est dans la bouche d'un quelqu'un qui manifestement ne l'aime pas.
Oui, mais en même temps qui reconnaît une certaine qualité, malgré tout.
Qui explique au narrateur l'importance de ce type-là dans l'histoire de
l'île. Il y a chez ce personnage quand même un côté émancipateur. Tout ce qu'il peut dire de la manière dont sont traités les insulaires, précisément, il y a quelque chose de l'ordre de, j'allais dire, de certains grands leaders du...
Oui, ça peut faire penser à Martin Luther King, à Mandela, etc. On peut tirer le livre de ce côté-là, mais on peut le tirer aussi du côté obscur de la force. Vraiment, c'est vous qui choisissez.
Alors, je pencherai... Non.
Mais l'auteur n'est responsable... Enfin, le livre, c'est une coproduction entre l'auteur et le lecteur. Donc, moi, je vous soumets des éléments. Si vous avez la gentillesse de les lire, après, avec votre histoire personnelle, je peux vous dire que... lu par un ami pied noir, le discours d'exclusion de Benjamin Tobias, il l'a trouvé extrêmement violent et le pied noir a classé de résolument Benjamin Tobias du côté des salauds.
Hein, c'est évidemment.
Eh oui, non, mais donc chacun lit avec. Lu par Mélenchon, je pense qu'effectivement il le classerait du côté des héros émancipateurs. Bon, enfin, après, chacun voit midi à sa porte. Enfin, je fais la preuve d'un courage. D'un courage limité, mais je veux dire, c'est pas un livre politique pour dire les choses encore autrement.
Non, mais en même temps...
C'est un livre qui fait réfléchir, si vous voulez bien, mais voilà, c'est pas un livre de propagande, de machin, de trucs. D'ailleurs, je vois pas quelle propagande je peux faire sur une île qui n'existe pas, quoi. C'est pas la scénarisation d'une thèse politique. Enfin, je m'incline devant les souffrances de tous les endroits où il y a eu des choses tragiques, etc. Mais c'est pas mon propos, c'est pas ça.
Ça reste un roman.
Je ne dois pas parler exagérément cynique non plus. C'est pour ça que c'est difficile de trouver le bon équilibre. Mais l'intérêt du roman, c'est quand même plutôt de montrer comment des vies sont fracassées par les évolutions politiques que de défendre une thèse idéologique. Donc on est plus, alors toute révérence gardée. On est plus, on va dire, chez Tolstoï que chez Raymond Aron, quoi. Voilà.
Oui. Avec tout, oui, d'autant plus que Raymond n'a pas écrit de roman.
Oui, non, c'est bien pour ça. Voilà, non, mais c'est, voilà, bien, voilà, c'est bien. Voilà. C'est bien pour ça.
Alors, il y a un autre personnage qui joue un rôle très, très important.
Vous me faites dire des choses.
Très, très important. Mais je ne comptais pas vous faire dire tant que ça. Hein. Mais
j'ai rien bu à midi. Bon, j'ai bu que de l'eau.
Il y a un autre personnage extrêmement important et extrêmement attachant, parce que même si c'est, encore une fois, même si c'est un roman, c'est quelqu'un qui a une vision complexe de la manière dont l'histoire se déroule. C'est Alexandre Chaner. C'est une espèce, enfin, cette espèce qui est historienne, d'après le, dans ce qu'on lit, et qui, au fond, suit l'enquêteur et par une certaine... commente en quelque sorte les avancées de l'enquêteur, comme une espèce de parallèle.
Alexandre Chaner, c'est effectivement un historien, un poète local. Dans toutes ces petites communautés, dans ces petites îles, il y a toujours un historien, jamais deux, parce qu'il n'y a pas assez d'histoires pour mettre au travail deux historiens. Alors, il y en a toujours un ou deux, ou un ou deux poètes, dont la notoriété ne dépasse pas le RIL, mais enfin, localement, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Donc, lorsque le narrateur arrive, eh bien, comme il se rencontre au café du coin, il commence à parler, et donc le narrateur lui pose un nombre de questions, il le revoit à plusieurs reprises, et il lui téléphone de temps en temps pour se faire confirmer tel ou tel point d'histoire ou vérifier telle ou telle information. Et donc le poète, l'historien poète, est de ceux qui pensent que Tobias, le leader révolutionnaire, a eu un bilan extrêmement négatif, et il va accompagner l'enquête tout au... Enfin, il sera au téléphone ou en face du narrateur chaque fois que celui-ci aura bien besoin de lui, dans un rôle un peu de référent ou de... même de d'oncle, enfin une relation qui commence à se nouer entre les deux, jusque évidemment au coup de théâtre final dont nous ne saurions parler.
Voilà, absolument. Et d'ailleurs, je trouve que le plus compliqué, au fond, c'est de parler du livre sans en dire l'essentiel, parce que sinon, on en priverait le lecteur de tout plaisir. Alors, il y a aussi la dimension du voyage, puisque donc, tout ça part de Manhattan, de New York, on va à Seattle, avec par moments quelques données... paysagère, on va dire, puis Paris, l'Italie,
Marseille
et donc
Bourg-Tapage et retour à New York.
Voilà, mais l'essentiel quand même de l'affaire se passe soit à New York, soit sur l'île.
Tout se noue à Bourg-Tapage. Le reste, il y a un hors-d'œuvre, on va dire, mais enfin tout se noue à Bourg-Tapage, effectivement. Oui.
Alors il y a des parentés avec le livre précédent. Parce qu'on retrouve le goût, enfin l'atmosphère maritime, l'intérêt pour les bateaux.
Oui, oui. Une fois, on m'a posé la question comme ça, en disant, mais dans vos deux livres, le héros, l'un des personnages principaux, est un matelot. Et pourquoi ? Alors, j'aurais pu répondre...
Pourquoi
pas, j'aurais pu répondre parce que j'ai fait mon service militaire dans la marine, mais c'est pas la vraie raison. C'est que le métier même de matelot est en soi, l'énoncé même de cette profession est en soi une invitation au voyage. Et j'ai répondu à mon interlocuteur, c'était dans une banlieue très chic de Grenoble, et donc j'ai répondu, si j'avais pris pour héros, je ne sais pas moi, un podologue, j'ai mon directeur qui n'est pas de podologue dans la salle, podologue, ça ne fait pas rêver, quoi, alors que matelot, ça fait rêver, voilà. Donc mes héros sont matelots, mais pour le troisième, il ne sera toujours pas podologue, mais il ne sera plus matelot non plus.
Bon. Y a-t-il un podologue dans la salle ?
Oui, c'est...
Bien, je crois que vous devez brûler d'impatience d'interroger notre auteur, et donc je vous cède la parole.
Je voudrais juste ajouter un point, parce qu'on vous avez fort bien mis la salle en appétit, mais je voudrais juste dire une chose sur les personnages. Moi, il y a un personnage dans ce deuxième roman qui me plaît beaucoup. Je le dis parce que... voilà. C'est une maison. Il y a des personnages, on va dire, des personnes. Mais il y a une maison, donc là, que j'appelais la Villa Raymonde, qui est dans laquelle qu'on verra du début du 20e jusqu'à aujourd'hui. D'abord villa, devenu ensuite un musée, etc. Et pour moi, la Villa Raymonde, c'est vraiment un personnage à part entière de l'histoire. Et j'ai essayé de lui donner un rôle. Elle aussi, elle donne des informations. Elle aussi, elle discute avec le narrateur. J'ai voulu faire... pour moi, l'un des personnages importants du livre. Et c'était un espèce de petit... pas de défi, mais un point important du livre, c'est que cette Villa Raymonde, cette belle maison de maître avec son jardin, ses collections de peintures, le souvenir d'une famille, c'est maintenant devenu un musée, que cette villa devienne aussi un personnage, pas le plus important, mais enfin un personnage qui pèse de tout son poids, y compris dans l'intrigue.
Voilà donc l'interview de Jean-François Garde pour son dernier ouvrage, Pour Trois Couronnes, publié aux éditions Gallimard. Cette interview a été ponctuée de musique maori. Ce sont donc des chants polynésiens sur lesquels la Nouvelle-Calédonie elle-même a bâti sa musique. Musique qu'elle a beaucoup oubliée. Et nous allons entendre là maintenant la musique d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, qui est une espèce de mélange de différentes influences que vous allez probablement découvrir par vous-même. Thank you. Voilà, c'est donc la musique d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie qui a été dévastée par la colonisation. Nous allons y revenir tout à l'heure avec une publication. Mais sachez que donc cette musique s'appelle la musique Kaneka. C'est une musique toute récente qui est née probablement après l'assassinat de Jean-Marie Djibaou, le leader néo-calédonien, et qui donc a brusquement s'est intervenue comme une sorte d'électrochoc et qui fait que une tentative de créer une identité musicale de la Nouvelle-Calédonie. Une musique à suivre à travers, ses, comme je vous le disais, ses multiples influences.
Grand angle.
Donc, en 2014, sachez que la Nouvelle-Calédonie, entre 2014 et 2018, va devoir s'autodéterminer. C'est-à-dire qu'après les accords de Matignon, qu'a conduit le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, cette île va avoir un référendum et décider si elle reste dans la communauté française ou si elle prend son autonomie. Alors, autonomie qui prendra évidemment des formes très particulières, puisque ce serait une sorte d'indépendance association. Mais donc le sort de cet ensemble d'îles d'Océanie va donc se décider dans les années qui viennent. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un pays qui avait été dévasté par la colonisation et c'est tellement vrai qu'il ne leur reste que très peu de choses, très peu de patrimoine. Leur patrimoine est essentiellement oral, d'où leur intérêt évidemment pour la musique. Le musée du Quai Branly, musée des arts premiers à Paris, a donc organisé récemment, et l'exposition est encore ouverte d'ailleurs pour ceux qui peuvent s'y rendre, une exposition intitulée « L'Arcanac ». L'Arcanac est une parole. C'est une évidemment très très belle exposition et à cette occasion, Télérama a sorti un hors-série qui s'intitule tout simplement « Canac », un très beau document qui donc fait le point à la fois sur l'aspect contemporain de cet ensemble d'îles, sur sa découverte, sur ce qu'on y a fait et surtout ce qu'on y a mal fait, et donc sur la reconquête que fait la population, sachant que les Néo-Calédoniens, la population autochtone, sont maintenant en minorité, puisque donc beaucoup de Blancs s'y sont installés, et c'est cette confrontation qui avait notamment dans le passé créé les difficultés. En tout cas, cette publication est assez remarquable. On y voit à quel point on s'intéresse au nickel, puisque le pays est très riche, notamment dans ce minéral qui est extrêmement recherché. Beaucoup de choses sont à faire. Un centre culturel calédonien a été créé. Et donc, c'est une communauté en complet développement qui est en train de naître, ou de renaître plus exactement. On le suit très bien avec cette publication donc de Télérama intitulée « Kanak » qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies.
Thank you.
Voilà, alors on a changé d'horizon, bien entendu. On est passé de l'Océanie à l'Asie centrale et c'est un air de fête pour l'ouverture des noces que vous venez d'entendre. C'est de la musique d'Asie, enfin plutôt Afghanistan d'ailleurs, et c'est l'occasion de parler de ce pays. Je signale que cet extrait, puis celui que vous entendrez par la suite, est tiré d'un très beau livre d'une série qu'a publié la Cité de la Musique, qui donc s'intéresse à des continents musicaux. Et là, c'est un ouvrage qui s'appelle Musique d'Asie centrale, un livre avec un CD qui est de Jean Düring, qui est un très bel exercice de musicologie. Pourquoi l'Asie centrale ? Eh bien, parce que je voudrais vous parler d'un film qui est sorti récemment, qui, je pense, n'est peut-être plus à l'affiche actuellement, mais c'est bien dommage. Ça s'intitule « Wajma, une fiancée afghane ». C'est un film d'un cinéaste afghan. Le cinéma afghan, ça existe, ça commence à exister, qui s'appelle « Barmak Akram ». Et c'est un film qui se situe entre la tradition et la modernité, un petit peu comme la problématique de la Nouvelle-Calédonie de tout à l'heure. Avec deux jeunes acteurs qui ont été formés par Ariane Mnouchkine, qui a ouvert à Kaboul une sorte d'annexe du Théâtre du Soleil, qu'elle appelle d'ailleurs en afghan, ça se dit Théâtre Al-Fahab, je ne garantis pas bien sûr la prononciation, et donc qui forme à Kaboul des jeunes comédiens qui ensuite viennent au Théâtre du Soleil à Vincennes et donc sont intégrés dans la compagnie d'Ariane Mnouchkine. Alors ce film raconte donc très vite, c'est l'histoire d'une Afghane qui fait des études, ça se passe à Kaboul, qui donc est séduite par un jeune Kabouli et qui se retrouve enceinte. Et bien une fois qu'elle est enceinte, évidemment, on imagine tout ce qui va arriver. Elle est frappée par son père, elle est obligée de s'exiler. Le jeune homme ne veut pas l'épouser parce que du fait qu'elle est enceinte, ça veut dire qu'elle n'était peut-être pas vierge. Enfin, il y a toute une série de rebondissements. Et on plonge dans la vie de cette communauté kaboulie qui est extrêmement dure. C'est un film assez violent. Il n'y a pas vraiment de gestes violents, mais le film est violent par les conséquences qu'il met en évidence. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est au fond une population qui vit sous le regard des autres. Sans arrêt, alors il n'y a pas de burqa, le cinéaste n'a pas joué l'effet scandaleux, mais on a sans arrêt l'impression, on voit les directions de regard, les gens s'observent et sans arrêt dans le dialogue, on entend « mais que vont dire les gens s'ils te voient comme ça ? Comment ça va se passer si on fait comme ça ? Comment on va nous voir ? Comment on va nous juger ?» Et c'est cette espèce de dictature un peu du regard qui s'exerce dans ce pays à travers ce film. C'est une approche d'une histoire banale mais qui est exemplaire et en même temps une belle plongée dans un univers qui est bien éloigné de ce qu'on peut penser, en tout cas de ce que nous donnent les médias la plupart du temps. Donc un film à voir ou en tout cas à trouver en DVD s'il paraît de manière récente. La revue Globetrotter, qui est une revue de voyage, consacre son dernier numéro à l'Asie centrale. C'est un bel, beau numéro et qui nous plonge dans le même univers que celui du film dont on vient de parler. Et c'est donc dans cette région du monde, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, toutes ces républiques ex-soviétiques qui sont devenues indépendantes, proches de l'Iran, de l'Afghanistan, donc on est en pleine Asie centrale. Et c'est donc dans cette région que Globetrotter a porté ses pas. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce numéro. Je vous signalerai simplement deux ou trois éléments. Il y a un très beau portfolio avec la photographe Claudette Bessel qui avait des clichés absolument magnifiques en couleur qui parcourent presque toutes les latitudes. Et puis, il y a un article rigolo sur Astana, c'est la capitale du Kazakhstan, Kazakhstan qui est dirigé par une espèce de dictateur Folding et qui a donc en plein milieu des steppes voulu construire une capitale. Et donc les architectes occidentaux se pressent pour construire, faire des projets là-bas et donc c'est complètement délirant. Un article assez passionnant. Il y a également un portrait du fondateur du Guide du Routard qui apparemment dans sa jeunesse était une sorte de beatnik qui s'est bien rangé depuis et qui explique le succès de ce guide. Une évocation du Transsibérien, cher à Blaise Cendrars, et que personnellement j'ai eu l'occasion de faire. Donc c'est amusant d'essayer de mettre ses pas dans ceux de Blaise Cendrars et de suivre les différentes étapes du Transsibérien. Voilà, dernière information que je voulais vous donner, c'est le fait que paraissent en DVD l'intégrale de tous les films de Raymond Depardon. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui a voyagé, qui s'est intéressé au monde et surtout aux personnes, c'est un regard très singulier, très, très proche, à hauteur d'homme, que Raymond Depardon a fait tout au long de sa carrière. Et c'est assez amusant. Il y a donc 29 000 films au total et 18 DVD. C'est Arte qui publie ça. C'est un petit peu cher, mais ça vaut la peine d'être acquis. Pour ceux qui s'intéressent à ces photographes qui ne font pas d'effet, qui ne cherchent pas la une des journaux, mais qui sont toujours dans une approche distancée vis-à-vis des gens qu'ils rencontrent. J'ajoute qu'une grande exposition est en cours à Paris sur les photographies qu'il a pu publier, photographies en couleur, car c'est quelqu'un qui a essentiellement travaillé en noir et blanc.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La guerre continue.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Je vous demande de vous arrêter.
L'armée a repris le pouvoir.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Nous ne voulons rien instrumentaliser. Nous avons décidé de ne pas mentir. Pas mentir.
Deux petites informations pour finir, lues dans la presse. Le fait que Ousmane Sow, que peut-être vous ne connaissez pas, qui est un très très grand sculpteur sénégalais, qui a commencé dans la vie avec un diplôme d'infirmier et qui peu à peu a quitté ce travail pour devenir sculpteur à part entière. C'est une technique assez particulière. Sur un treillis métallique, il place de la boue qui est à la sécher selon des techniques sénégalaises, puisqu'il est d'origine sénégalaise, et dont il garde la technique secrète d'ailleurs. On ne sait pas comment il fait et qui donc se conserve très longtemps. Alors ce sculpteur sénégalais, qui a la double nationalité française bien sûr, vient d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la première fois qu'un homme d'origine noire est élu à l'Académie des Beaux-Arts. C'était le 11 décembre 2013 et je trouve que les académiciens des Beaux-Arts s'honorent d'avoir élu parmi eux ce grand sculpteur. Et d'une académie à l'autre, c'est l'Académie française qui est le 12 décembre, le lendemain, a élu Daniela Ferrière, également écrivain noir, puisqu'il est donc haïtien. Il a la nationalité haïtienne et canadienne. Il vit au Québec. Et donc, Daniela Ferrière a été élu. Il a eu le prix Médicis en 2009. C'est un écrivain qu'on connaît un petit peu. Je vous signalerai simplement que le livre qu'il a le plus fait connaître, c'est « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Ça a fait l'objet d'ailleurs d'une adaptation au cinéma assez désopilante. Il a plus récemment publié, au moment du tremblement de terre à Haïti, il était présent, c'était en 2010. Et l'année qui a suivi, il a publié un livre absolument époustouflant qui s'appelle « Tout bouge autour de moi » et c'est donc le récit de son expérience du tremblement de terre. Gulliver, une émission d'Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand que vous pouvez retrouver en podcast sur le www.divergence-fm.org.